France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui.
Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Tu me demandes pour quelle raison Pythagore s'abstenait de manger de la chair. Moi, au contraire, je m'étonne. Quelles affections, quel courage ou quel motif firent autrefois agir l'homme qui, le premier, approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui osa toucher de ses lèvres la chair d'une bête morte, servie à sa table des corps morts et pour ainsi dire des idoles, et fit de la viande et sa nourriture de membres d'animaux qui peu auparavant bêlaient, mugissaient, marchaient et voyaient. Comment ses yeux purent-ils souffrir de voir un meurtre, de voir tuer, écorcher, démembrer une pauvre bête? Comment son odorat put-il en supporter l'odeur? Comment son goût ne fut-il pas dégoûté d'horreur quand il vint à manier l'ordure des blessures, à recevoir le sang et le suc sortant des plaies mortelles d'autrui? C'est bien sûr une fiction poétique, une fable, mais ce fut certainement un souper étrange et monstrueux que d'avoir faim de manger des bêtes qui mugissent encore, d'enseigner à se nourrir d'animaux qui vivaient et criaient encore. Bonjour Brigitte Gauthier.
Bonjour Mathieu Vidard.
Ce texte est extrait des œuvres morales de l'historien grec Plutarque sur l'usage des viandes, écrit au 1er siècle de notre ère. Il est considéré comme l'un des tout premiers textes sur le végétarisme. Pour quelle raison, Brigitte Gauthier, vous abstenez-vous de manger la chair des bêtes? C'est la question que je vous poserai tout à l'heure. Vous qui avez cofondé avec votre mari Sébastien Arsac l'association de défense des animaux L214, on vous présente parfois comme la terreur des abattoirs et c'est l'occasion de revenir sur votre parcours qui commence le 18 mai 1973. Voici le petit journal de votre naissance préparé par Valérie Ayestaraï avec les archives de l'INA d'Isabelle Fort-Rendu.
Interactualité Magazine, édition du soir, Patrick Lecoq.
Bonsoir. Les techniciens français de l'espace vont reprendre leur compte à rebours à la base de lancement de Kourou en Guyane française, en Amérique du Sud. Il y a bien eu quelques petites interruptions dans le compte à rebours, mais M. Palmieri, l'un des responsables du lancement de la fusée française, a confié que ces petites interruptions n'étaient pas graves. Le roi Faisal d'Arabie Saoudite visitera Concorde ce vendredi matin. C'est la dernière journée en France pour le souverain. Rapportant les propos du président Pompidou, M. Denis Baudouin, le porte-parole de l'Élysée, a souligné le succès des conversations.
Le Gémon, groupement d'éleveurs de moutons nivernais, est en place depuis un peu plus de 2 ans. Il regroupe déjà plus de 50 adhérents éleveurs de la Nièvre. On est passé d'un souci de commercialisation à un souci d'améliorer les techniques d'élevage.
Les éleveurs de moutons n'hésitent pas à faire pas mal d'essais sur leurs troupeaux, à apporter pas mal d'améliorations.
À noter enfin une nouvelle rencontre cet après-midi entre syndicats et direction de la SNCF. On a parlé bien sûr des salaires. La Fédération des cheminots CGT voudrait maintenant l'ouverture immédiate des discussions globales.
Voilà, 18 mai 1973, le journal de votre naissance, Brigitte Gauthier. Que vous inspirent ces archives?
Ah, c'est assez troublant de voir qu'on est dans l'actualité, encore aujourd'hui, sur la SNCF. On voit que c'est le début des coopératives agricoles aussi, qui aujourd'hui ont un rôle majeur dans les problèmes des éleveurs, j'ai envie de dire, et du coup dans la problématique de l'élevage en général. Oui, c'est des...
On entendait ces éleveurs donc, de moutons de la Nièvre qui essayaient d'apporter des solutions à leurs bêtes. Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Ah ben là, on parle des solutions technologiques, on parle de la génétique qui va être poussée au bout, où on voit aujourd'hui l'effet qu'elle a par exemple sur les poulets avec des jeunes poussins qui grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950, atteignent en 35 jours un poids qu'ils atteignaient avant en le double, voire le triple, voire le quadruple de temps, et où ça leur créait des problèmes de boiterie, des problèmes pulmonaires, des problèmes cardiaques. Et ça fait partie des grands sujets qu'on adresse aujourd'hui, une partie des grandes souffrances des animaux, a débuté dans les années 60, 70, 80, pour atteindre aujourd'hui... quelque chose qu'on n'arrive même plus à réaliser. On a toujours dans la tête, ça c'est encore Caroline Dussin qui le dit là avec son livre, l'image un petit peu bucolique de la ferme familiale en France, et c'est répété à l'envi, malheureusement, par nos politiques aujourd'hui.
Et alors qu'on est vraiment dans une industrie très puissante, évidemment, et qui, évidemment, avec la demande, nécessite aussi de fournir énormément de bêtes. Donc, tant qu'à faire, essayez aussi de les faire grandir le plus vite possible. On en parlera tout à l'heure. La fusée française dont il était question dans l'archive de votre naissance, c'était Ariane. La fusée Ariane, qui était lancée en 1973.
Tout à fait.
Justement, vous le saviez, Brigitte Gauthier. Dans quel contexte familial est-ce que vous êtes née à Nancy, je crois?
Oui, je suis née à Nancy, dans une famille... j'ai beaucoup de chance, une famille très aimante. J'ai deux sœurs qui sont géniales. J'avais la chance d'avoir mes grands-parents. J'ai connu mes quatre grands-parents. Et une atmosphère familiale.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents?
Mon père était... Alors, quand je suis née, il était ouvrier dans les usines de Pompée, qui sont de la sidérurgie à côté de Nancy.
Ouais.
Et ma mère était infirmière.
Et vous viviez dans quoi? Dans quel contexte? Dans quel décor, je dirais, en Meurthe-et-Moselle?
Donc vraiment à Nancy, à Malzéville, sur le plateau, comme ils disent, en dessous du plateau de Malzéville.
Là où il y a les grandes barres d'immeubles?
Dans ces grandes barres d'immeubles.
Ah oui, vous étiez là. Ah oui. Celle qui surplombe la ville.
Tout à fait.
On voit très bien quand on arrive
où j'essayais de regarder l'AS Nancy-Lorraine, mais je pense que je ne voyais rien du tout. Mais j'avais le bonnet.
Vous aimiez le football?
Ah, j'adorais le football.
C'est vrai?
Oui.
C'est toujours le cas aujourd'hui ou pas?
Non, j'ai un petit peu lâché. J'ai un petit peu lâché, mais ça m'a suivi toute mon enfance et mon adolescence.
Est-ce qu'ils étaient végétariens, vos parents, ou pas?
Ou pas du tout.
Pas du tout?
Et toujours pas.
Ah, toujours pas? C'est pas vrai?
Toujours pas. Non. Mais enfin, faut vraiment faire la partition entre ce que je vais dire aujourd'hui, où je suis porte-parole d'une association, et où je vais essayer de mettre des arguments, essayer d'expliquer ce qui se passe dans les élevages, dans les abattoirs, ce que ça signifie réellement pour les animaux. Et puis, la vie privée, l'espace familial, dans lequel, évidemment, on en a parlé, j'ai été casse-pied.
Est-ce qu'ils mangent moins de viande quand même aujourd'hui ou pas?
Je pense que... Alors, je suis sûre
que
oui.
Parce qu'avec une fille comme vous, quand même, ça doit être difficile de faire des repas, non?
Quand je suis là avec
ça se passe comment, les fêtes de
Sébastien
fin d'année
et les... c'est tout végétal, effectivement.
Ah, quand même.
Non, c'est vraiment très très...
Donc ils font des efforts pour
vous. On a vraiment beaucoup de chance, effectivement, avec des familles de part et d'autre, puisque je peux parler aussi de la famille de Sébastien.
Votre mari.
Qui est aussi un des fondateurs de L214 avec quelques autres, où on est vraiment bien entouré. Mais c'est vrai qu'on ne ramène pas du travail à la maison d'une certaine façon. On porte nos convictions, ça c'est bien obligé. Nous-mêmes, on ne consomme plus aucun produit d'origine animale, c'est connu, et voilà. Mais ça ne fait pas l'objet de l'ensemble des discussions. Mais oui, on voit bien qu'ils y prêtent attention. Ouais. Ils regardent les recettes, on innove beaucoup ensemble avec elle et eux, et mes sœurs sont toujours les premières à me partager les nouveautés qu'elles ont vues.
Et qu'est-ce que vos sœurs non plus?
Mes sœurs non plus, non. Ouais. Elles ont beaucoup réduit pour le coup.
C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, vos parents, alors? Comment ils interprètent ça, justement, comment ils justifient, entre guillemets, le fait de continuer à manger de la viande avec une fille, quand même, qui les informe beaucoup sur ces questions-là?
J'ai envie de dire un petit peu comme tout le monde, l'environnement alimentaire qu'on a aujourd'hui, quand vous êtes en supermarché, quand vous êtes au restaurant, tout ce qui vous entoure contient des produits d'origine animale. 9 plats préparés sur 10, et une enquête du RAC qui l'a montré encore cette année, contiennent de la viande.
Ouais.
Quand vous êtes face aux rayons, dans les rayons frais... Je sais pas, le jambon, on a dénombré, il y a 200 références de jambon qui sont répertoriées sur les sites en ligne, là où pour des alternatives à peu près équivalentes, des tranches, etc., dans l'ensemble de ce qui existe, il y en a peut-être 5.
Mais ça, c'est ce que vous appelez la viande invisible, un petit peu, c'est ça?
C'est la viande invisible, et puis c'est la visible aussi, c'est des habitudes qui se sont construites comme ça, vraiment, c'est notre environnement alimentaire. Ce qui est à disposition, l'offre en magasin, tout ce qu'on nous dit en message de santé publique aussi, les avis sur le végétarisme ou sur le végétalisme, ils sont encore relativement timides. Et puis, peut-être gros coup de gueule sur l'ANSES qui nous sort un avis sur le soja en disant « Oh là là, c'est dangereux, n'en mettez plus à disposition dans les écoles ». Grosso modo, c'est leur avis. Alors que la viande, on sait, viande, charcuterie, viande rouge, charcuterie, cancérogène. Là, pour le coup... pas d'avis, ça continue d'être distribué dans les écoles.
Donc
deux poids deux mesures qui est vraiment fort.
Et qu'est-ce qui justifie, à votre avis, qu'on dise attention au soja et pas à la viande, alors?
Ah bah, c'est justement le poids de l'industrie de la viande qui aujourd'hui est très très fort. On l'entend dans tous les propos des ministres de l'Agriculture, on l'entend dans les prises de parole des représentants agricoles, alors qui sont représentants finalement des industries agroalimentaires, des agro-industries, mais absolument pas d'ailleurs des éleveurs qu'ils sont censés défendre au départ.
On y reviendra évidemment avec vous tout à l'heure, Brigitte Gauthier. Donc il y a encore des carnivores dans votre famille, c'est déjà une information importante.
Et puis moi je l'étais jusque mes 20 ans sans me poser aucune question.
Et pourtant c'est grâce à vos parents que vous avez été, vous êtes engagé sur le terrain du militantisme.
Mais complètement, puisque...
Mais c'est pas la question animale en fait qui
non,
a motivé
tout ça. Non, c'est pas la question animale. Et la question animale pour moi c'est juste une extension d'une question globale de l'attention aux autres, du
soin. Et vous, votre militantisme, il est né comment alors, concrètement ?
Je pense qu'il est né très très tôt, parce que justement, bah, ma mère étant infirmière, mais étant aussi très engagée dans le tissu associatif, je l'ai vu agir pour les autres, partager ses expériences en couture, encore... Tout récemment, et je crois encore aujourd'hui, elle accompagne des jeunes dans les cours du soir après l'école. Donc je l'ai toujours vue dans le petit village où on a atterri un petit peu plus tard. Elle donnait des cours d'informatique quand il y a eu les premiers ordinateurs. Elle a été, elle a introduit l'ordinateur très très tôt dans notre famille. Elle a toujours été fer de lance là-dessus. Et mon père, pareil, très engagé, très à l'écoute, hyper discret, vraiment. Mais là, quand vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez être sûr qu'il est immédiatement ici. Et Seb a grandi dans une famille équivalente, donc vraiment le soin aux autres.
Alors Seb, c'est votre mari hein, parce que
alors pour c'est ça, mon mari, oui, il va revenir très souvent, c'est un parcours à deux. C'est un parcours à deux qui s'est fait, et moi je l'ai croisé, Sébastien, quand j'étais en terminale. Et c'est cette année-là aussi où j'ai découvert la Croix-Rouge, et où là, pour le coup, je me suis engagée, donc je n'avais pas encore tout à fait 18 ans, et je me suis engagée dans un parcours associatif au sein d'une organisation, d'une association.
Ça a été une rencontre, donc, le père aussi de vos deux enfants, Sébastien Arsac, qui est évidemment importante pour vous sur différents plans, parce qu'il y a eu aussi ce militantisme qui s'est noué dans le même moment, c'est ça ? Vous l'avez vraiment forgé ensemble ?
Oui, on l'a vraiment forgé ensemble. Donc, au départ, plutôt sur des luttes étudiantes et des choses comme ça. Et puis, Sébastien a toujours été très sensible aux animaux, sans pour
alors,
autant...
Il faut peut-être le resituer dans son contexte.
Dans
parce
son
que
contexte.
Vous parliez de carnivore dans votre famille, mais alors lui, c'était
alors,
quand
lui,
même...
Lui, c'est encore un autre contexte. Ses grands-parents maternels étaient éleveurs laitiers. Il y avait des poules, des canards en liberté. Il y avait des lapins dans les clapiers. Son grand-père était le seigneur du village, seigneur Aïs.
Pas des anneaux, hein.
Pas des anneaux, et il tuait le cochon chaque année pour la famille, mais aussi dans d'autres familles. C'était le tueur du village.
Ouais. Donc votre compagnon vit dans ce contexte familial-là.
Dans ce contexte familial-là, il est, enfin, la maison des grands-parents et des parents, c'est à 100 mètres l'une de l'autre. Tous les week-ends, les soirs après l'école, il est chez ses grands-parents-là. Les autres grands-parents ont eu une boucherie. Le grand-père continue d'être maquignon. Même moi, quand je fais sa connaissance, il est toujours maquignon. Quand j'arrive dans la famille, moi, les grands-parents ont toujours des vaches, une quinzaine de vaches dans l'étable. Et c'est comme ça, voilà. Et tout le monde sait que Sébastien a une grande sensibilité aux animaux. Il est contre la chasse, il est contre la corrida. Il adore le saucisson qui cache sous son lit. Donc il y a un paradoxe, quelque part. Et ce paradoxe bascule au moment où il lit une bande dessinée. Donc on dévorait les bandes dessinées, on avait 20 ans. Il dévore les bandes dessinées, il tombe sur la bande dessinée Le Lama Blanc de Jodorowsky. Ça retrace l'histoire de Siddhartha, du premier Bouddha, qui est mis à l'épreuve à l'extérieur du monastère. Il fait froid et deux moines passent avec sur le dos la carcasse d'un cochon. Et là, il dit Mais que sont mes souffrances face à ceux qui sont sacrifiés au bon plaisir des autres ? Et là, Sébastien dit « Oh ! Mais c'est du cochon !» Il était en train de manger un morceau de lard du cochon qu'on avait tué. Et on se rappelle plus ce qu'on s'est dit à ce moment-là, mais on a pris la décision de ne plus manger d'animaux, ni viande, ni poisson.
Donc vous arrivez vraiment à dater en fait ce moment.
Ah mais on le date, mais très précisément.
Ouais. Avec la tranche de saucisson dans la main.
Avec le morceau de lard, ouais, exactement. Ouais.
Et là, vous vous dites, on ne va plus jamais manger de viande de notre
non,
vie.
Non, parce que ça a été vraiment réalisé. Alors, ce qui est fou, parce que bah, il vit à la ferme, et à ce moment-là, on percute pas sur le lait et les œufs, alors qu'on l'a sous les yeux aussi. Mm-hmm. Donc, on se rend compte à quel point c'est dur la prise de conscience.
Donc, il y a un cap végétarien.
Il y a un cap végétarien, puis après, il y a le cap vegan sur de la lecture, alors que on voyait bien le grand-père séparer le veau de la vache, l'autre grand-père venir prendre le veau pour l'emmener au marché, pour l'emmener vers les abattoirs. On a tout ça sur les yeux et pourtant, on percute pas à ce moment-là. C'est cette case de bande dessinée qui fait réaliser le fait de faire tuer des animaux pour les manger et qui entraîne la décision de ne plus les manger. Et c'est quand on va arriver sur Lyon où là, l'aventure va débuter sur la cause animale.
C'est-à-dire, elle débute comment ? En se nourrissant justement de pensées, d'écrits, de rencontres. C'est ça qui va aussi consolider.
Ouais, c'est exactement ça. Donc, on est en 93, un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. Il n'y a pas Internet. Très très peu de groupes qui existent. Donc on est en Auvergne, avec tout le monde qui mange de la viande autour de nous, et on se demande... Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui cloche chez nous ? On est tous les deux de formation scientifique, et donc on va chercher vraiment tous les arguments pour remanger de la viande, en se disant, il y a quelque chose dans notre raisonnement qui ne va pas, mmh. On a loupé quelque chose. Bon, jusqu'ici, on n'a encore pas trouvé l'argument qui ferait qu'on remangerait des animaux. C'est pas encore arrivé, mais voilà.
Et donc, il y a des penseurs qui vous servent à avancer et aussi
ben,
dans ce cheminement ?
Cinq ans plus tard, Sébastien fait son service d'objecteur de conscience, puisqu'il ne veut pas faire l'armée. Et il tombe à la Maison de l'écologie, à Lyon, sur la brochure « Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas faire tuer d'animaux ». Et sur les cahiers antispécistes qui existent depuis quelques années et qui reprennent des textes de philosophes, d'auteurs français, comme Florence Burga, ou anglophones, comme Peter Singer. Et là, pour nous, ça va être ce qu'on avait un petit peu entre nous. Ça devient une pensée construite, articulée, fort logique.
Et vous dites voilà. Que vous n'êtes pas tout seul, finalement, aussi. Hein,
et alors, on croise d'autres énergies humaines dans notre sens qui remettent aussi en question le fait de considérer les animaux comme de la nourriture.
On va écouter la voix de Peter Singer, qui était l'invité d'ailleurs, feu la tête au carré, c'était le 31 mai 2013.
Est-ce que je dois manger des animaux ? Dois-je soutenir l'activité commerciale moderne qui consiste à consommer des animaux ? Pour répondre à cette question, moi je crois que la question de la souffrance animale est une question centrale et elle mérite une réponse. Et si les animaux peuvent souffrir, pouvons-nous soutenir cette souffrance en donnant aux producteurs de chair animale notre argent pour les encourager à élever de plus en plus d'animaux qui vont souffrir comme dans le passé ?
Peter Singer, la souffrance animale, c'est le cœur de votre combat, Brigitte Gauthier ?
Oui, c'est le cœur de
L214. C'est vraiment ça qui vous fait avancer tous les jours
C'est ça qui nous fait avancer tous les jours, ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi comme nom L214.
En qui référence, correspond à quoi ?
C'est l'article du Code rural qui date de 1976 et qui reconnaît pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles. C'est passé après dans le Code civil en 2015, être doué de sensibilité. Mmh. Et le fait que ce soit des êtres sensibles doit nous questionner sur notre façon de nous alimenter. Est-ce que... c'est Florence Burga qui pose cette question. Hein. Est-ce que on tue pour manger ou est-ce qu'on mange pour tuer ? Et aujourd'hui, dans une société où on sait qu'on peut se nourrir autrement, continuer de faire tuer des animaux pour se nourrir, ça pose question.
France Inter. La Terre au carré.
Il y a combien de lapins dans ce bâtiment ?
Là, tu as 760 mères ici et 384 ici, là-haut. Et puis, il y a 6500 petits dans la salle.
Du coup, là, ça fait quelle taille par lapin ?
Ça équivaut à peu près à la grandeur d'une feuille A4. Pour moi, ils sont pas mal traités, ils sont bien, ils ont un confort, ils ont à manger à volonté, l'ambiance est très bonne. Donc, je l'accepte. Bon, on pourrait améliorer la chose en faisant des parcs beaucoup plus grands.
Comment vous en êtes arrivé à faire de l'élevage comme ça et pas faire
de l'élevage c'est une question de imposée par les coopératives. Et c'est les coopératives, ils veulent... Il y a tellement de monde à nourrir, il faut produire. Ce système-là permet de produire à des rapidités énormes.
Extrait du film Animal de notre camarade Cyril Dion avec la voix de Vipulane et Laurent Hélène, éleveur de lapins à côté de Nantes. Brigitte Gauthier, vous qui êtes la cofondatrice avec votre mari de l'association L214, donc Association de Défense des Animaux. Comment vous réagissez à ce qu'on entend avec cet éleveur qui est vraiment très sympathique, hein, on l'entend à sa voix d'ailleurs, il y a beaucoup de gentillesse, de bonté et la réalité aussi d'un élevage qui met des animaux sur une feuille de papier A4.
C'est malheureusement le sort de beaucoup d'éleveurs. Hein. Aujourd'hui, 80% des animaux qui sont abattus sont dans des élevages intensifs, des élevages où ils n'ont pas accès à l'extérieur. Et du coup, on les adapte à un milieu qui leur est totalement hostile. Donc, à vivre en cage. Donc, on va couper des becs, on va couper des queues, on va limer des dents pour les adapter à ce milieu hostile. Et bah, les éleveurs, bah, il faut qu'ils fassent avec. C'est la coopérative qui impose finalement les conditions d'élevage, qui imposent ce qu'on donne à manger aux animaux, qui imposent les rythmes de croissance, les souches qui sont utilisées. Et bah, Laurent Hélène fait partie de ces éleveurs qui sont pieds et poings liés avec leur coopérative.
Vous les rencontrez d'ailleurs régulièrement, ces éleveurs? Il y a un dialogue qui est possible avec L214 ou pas?
Oui, totalement. On a beaucoup qui nous appellent. Mais ils nous appellent en disant, bah, écoutez, je vous appelle, mais ne dites pas que je vous ai appelé. Ils préfèrent rester anonymes. Et c'est pour ça que des livres comme celui de Nicolas Legendre, ou comme celui d'Ulysse Thévenon, ou le documentaire de Anne-Sophie Reinhardt, Les damnés des abattoirs, sont si importants pour leur redonner la parole, pour leur redonner ou leur donner la parole pour qu'ils puissent raconter du calvaire, de l'endettement. L'endettement moyen aujourd'hui d'un éleveur de cochons, c'est 500 000 euros. L'endettement, ça peut représenter jusqu'à 80%. Donc c'est vraiment, c'est juste énorme. Quoi.
Donc la question, c'est pas de les stigmatiser, mais c'est de comprendre finalement le mécanisme dans lequel ils sont embarqués.
Alors c'est de comprendre, en même temps, eux-mêmes le comprennent très bien, eux-mêmes le dénoncent. Et l'idée, c'est plutôt d'emmener la société vers autre chose. Avec L214, bien sûr, notre vision d'une société qui prend en compte la sensibilité des animaux, c'est une société qui ne met plus à mort, qui n'élève plus et qui ne met plus à mort les animaux pour en faire de la nourriture. On se rend bien compte que c'est un peu lointain et je pense qu'il y a des intermédiaires plus proches de nous. C'est pour ça qu'on a une campagne qui va débuter, qui va demander à ce que la France se donne comme objectif de réduire de moitié le nombre d'animaux tués pour l'alimentation française. Donc ça comprendra aussi les importations d'ici 2030, histoire d'aller vite. Parce qu'il y a des enjeux qui sont autour des animaux. Bien sûr, on élève 1,2 milliard d'animaux terrestres chaque année en France. Et au niveau des animaux marins, on est plutôt aux alentours de 7 milliards, alors qu'ils ne sont pas forcément élevés, mais il y en a beaucoup qui viennent de pisciculture. Mais
c'est ça, parce que ce qu'on oublie beaucoup d'ailleurs avec L214, c'est que vous qui travaillez sur la défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires, il n'y a pas que la viande, il y a aussi les poissons.
Exactement, les poissons et autres animaux aquatiques.
Les œufs et le lait. Ça participe justement.
Tout ce qui va faire souffrir les animaux, finalement le problème c'est pas l'œuf, c'est la poule. Pour une fois, on s'est tranché.
Mais en quoi une poule elle souffre? Une poule pour des œufs, en quoi elle souffre?
Parce que moi, quand
j'achète mes œufs, je me dis c'est formidable, je fais de mal à personne.
C'est tout le parcours de l'élevage de poules pondeuses, de la filière œuf. Vous avez des poussins qui naissent dans d'immenses couvoirs. Alors, on pourrait parler des reproducteurs. D'abord, des reproducteurs, poules pondeuses, reproductrices et tout ça, qui ont un sort assez peu enviable. Là, il y a encore des cages, par exemple, ou des choses comme ça. Les poussins, enfin, les œufs sont mis en couvoir, naissent en couvoir. Il y a un premier tri qui est fait. Alors, aujourd'hui, avec justement ce qu'on a poussé, c'est l'interdiction du broyage des poussins. Donc, il y a encore peu de temps, les poussins mâles étaient broyés à la naissance. Aujourd'hui, c'est par sexage in ovo pour la plupart, mais encore pas la majorité.
C'est ça, il y a encore des dérogations beaucoup sur le broyage des poussins.
Exactement, des dérogations, et puis ça n'englobe pas l'ensemble des poussins. Donc il y a un tri, en tout cas il n'y a que les femelles qui intéressent la filière œuf, qui n'est pas la même que la filière poulet de chair. Quand vous mangez un poulet, c'est pas issu d'une poule pondeuse. Et ensuite, les différents modes de production, vous avez l'élevage en cage qui existe encore en France, qui est à 23% au dernier chiffre qu'on a. C'était 80% quand on a débuté, mais on a réussi à avoir l'engagement de l'ensemble des supermarchés, des fabricants, de l'hôtellerie-restauration et des producteurs. Donc ça a fait baisser ce chiffre drastiquement, mais il y a encore de l'élevage au sol, donc les poules ne sortent pas des bâtiments. Avec encore des projets de construction qui sont immenses. La ferme du Pré, super non bucolique.
C'est combien d'animaux ?
900 000 poules aujourd'hui dedans, et ils veulent étendre à 1,2 million, ils veulent réagrandir à 1,2 million. Et puis après, vous avez, avec accès au plein air, que ce soit bio ou juste accès au plein air, label rouge, mais là aussi, vous avez quand même des centaines, des milliers de poules qui sont dans le même espace. Les poules, c'est des oiseaux arboricoles qui vivent normalement dans des arbres, par tribu d'une quinzaine, de quelques dizaines d'individus. Bah là, c'est juste complètement énorme, c'est complètement disproportionné.
Quand vous créez L214, donc en 2008, c'est ça, Brigitte Gauthier, est-ce que vous avez vu vraiment le changement au niveau de l'information du public sur ces questions justement de souffrance animale et sur la façon dont on utilise des animaux pour notre nourriture ? Est-ce que ça a quand même évolué ?
Alors ça a évolué sur le fait qu'on en parle. C'est dans le débat public aujourd'hui, on peut poser la question, alors à différents niveaux, on peut poser la question de l'élevage intensif, des rythmes, des cadences d'abattage, donc vraiment sur les pires pratiques qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est, avant on parlait des chiens, des chats, maintenant on parle aussi des animaux qui sont élevés dans les abattoirs. On peut soulever la question de est-ce que ce qu'on fait subir aux animaux, du coup, c'est bien légitime quand on les tue. Et puis, on peut commencer à poser des questions sur le spécisme, le fait de faire une discrimination qui, finalement, est arbitraire sur la façon dont on traite les animaux. Donc, il y a différents grades.
Mais pour le spécisme, c'est quoi ? Il n'y a pas de différence, justement ?
Alors, il y a des différences, mais ces différences ne justifient pas le traitement qu'on fait subir aux animaux. Le fait de considérer que les vaches, une vache, c'est différent d'un être humain, évidemment. C'est différent d'une poule aussi. Ça n'a pas les mêmes besoins. Néanmoins, il y a des besoins fondamentaux. Le fait d'avoir une vie qui se passe le mieux possible, bah, ça fait partie des choses qu'on a en commun avec les autres animaux, qu'ils soient à plumes, à écailles. Voilà.
La méthode L214, il fallait la résumer très rapidement. Brigitte Gauthier, c'est quoi ? Parce que vous naissez la même année que Facebook, donc ça veut dire que les réseaux sociaux aussi, l'image a contribué à faire connaître aussi votre engagement et votre militantisme. Mais c'est quoi votre mode opératoire exactement ?
C'est de porter des demandes qui sont extrêmement concrètes auprès des entreprises et auprès des politiques et de leur demander d'agir. Et quand ils n'agissent pas, c'est de rendre publique cette inaction. Voilà, et c'est comme ça.
Et tous les moyens sont bons ou pas ?
Ah non, on reste toujours pacifiste. Les manifestations qu'on fait, on essaye d'y mettre une pointe d'humour, même si on traite un sujet qui est extrêmement grave.
On regarde vos vidéos, l'humour, on le sent pas tellement.
Alors, L214 est surtout connu pour les vidéos, c'est ce qu'on voit le plus dans les médias, mais au final, il y a aussi beaucoup d'autres actions qui sont faites, notamment devant les magasins, où, dans les manifestations qu'on a pu faire, par exemple, pour les poules pondeuses, on était avec des costumes de poulet, avec des béquilles, avec les bras dans le plâtre, pour illustrer le fait que dans ce type d'élevage, c'était beaucoup des animaux qui finissaient par être blessés, par être dans un piteux état.
Comment vous arrivez à introduire vos caméras, justement, par exemple, dans les abattoirs, puisque c'est les vidéos qu'on connaît le plus de L214. Vous avez des complices dans les abattoirs ? Comment ça se passe ?
Alors, il y a beaucoup de personnes qui lancent l'alerte et qui disent « moi, j'ai vu ceci, ici ou là ». Et après, on a un devoir de les protéger, de protéger nos lanceurs d'alerte, et on ne parle pas beaucoup justement des conditions d'obtention des images.
Mais vous pouvez avoir des gens en interne, clairement.
On peut avoir, mais très clairement, on a des gens en interne qui nous permettent d'obtenir ces images, mais on est aussi sous surveillance de la fameuse cellule Déméter qui met sous surveillance les animalistes comme L214.
Et donc concrètement, et comme ça se traduit comment ? Cette surveillance, elle se traduit comment ?
On ne sait pas parce que c'est assez flou. Il y a eu plusieurs articles d'ailleurs de Stéphane Foucard dans Le Monde.
On ne sait pas.
Non, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est complètement opaque et du coup, ça nous met en situation d'insécurité. On a déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, donc on verra bien comment ça se passe. Mais on sent qu'on est sous surveillance étroite. On a des procédures bâillons, en veux-tu, en voilà. On en a une trentaine qu'on gère depuis les débuts de L214.
Est-ce que vous arrivez, vous, à vous blinder contre les images que vous diffusez, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux ? Parce que quand on regarde les vidéos qui arrivent de L214, en général, on a du mal à aller jusqu'au bout. Certaines, on refuse carrément de les voir. Est-ce que vous êtes blindé là-dessus ou pas ?
Je pense qu'on n'est jamais blindé, en vrai. Le fait d'être dans l'action, le fait de réfléchir à comment on arrive à transmettre cette, cette réalité, cette détermination, ça nous aide justement à faire face à ces images. Mais je peux pas dire que c'est serein. Évidemment, ces images, elles sont terribles, elles sont tragiques pour les animaux, et elles sont aussi tragiques pour les personnes qui sont autour. Et ça, c'est important pour nous de le souligner. On agit contre un système, pas contre des personnes. Et ça, c'est vraiment important pour nous d'essayer d'emmener la société dans son entier à réaliser ce qu'on fait subir aux animaux, à réaliser ce que ça induit pour les êtres humains, pour l'environnement, et à essayer de changer ça.
On va écouter justement la voix d'une éleveuse de porc à Castres, extrait d'un documentaire « L'usine des animaux » qu'avait diffusé Arte en 2022.
Pour améliorer le goût de la viande, Stéphanie et Olivier, comme tous les éleveurs, castrent aussi leur porc.
Donc on castre, et puis on est tellement dans notre truc machinal que pof, on castre, à un moment, il y a une hernie, donc c'est les boyaux qui ressortent, et là, le porcelet est condamné. Donc là, tac, on assomme le porcelet, et puis on continue, on repasse à la suite, on castre, et en fait, on n'en fait pas cas, quoi. C'est comme ça, on s'est raté, merci, au revoir, et on continue. C'est un produit, et quand on n'en a plus besoin, on le jette. C'était carrément ça. Moi, j'ai mis des cochons à la poubelle, comme du plastique. Ouais. On produit, on jette, et on recommence, on reproduit, on jette, et c'est reparti.
Brigitte Gauthier, la voix de cette éleveuse, elle est évidemment importante à écouter aussi, à entendre.
Oui, complètement, parce qu'on entend au travers de son témoignage aussi la souffrance de ces personnes qui aujourd'hui survivent de l'exploitation des animaux, quoi. Et donc, il y a la souffrance des animaux, d'une part, parce que quand elle dit on les jette, elle évoque pas le geste du claquage aussi, qui traumatise beaucoup de personnes qui travaillent dans les élevages de cochons.
Ça consiste en quoi, le claquage?
Le claquage, c'est vous attraper le porcelet par les pattes arrière et vous le claquez contre un mur ou contre le sol pour le mettre à mort, parce que, il est bon à mettre à la poubelle, il va pas être productif, il est chétif et tout ça. Et en fait, il y a beaucoup d'actes très intrusifs envers les animaux. Non seulement il y a leurs conditions d'élevage dans ce milieu fermé, tassés les uns sur les autres, mais en plus, il y a des gestes que doivent faire les exploitantes et les exploitants qui sont absolument terribles et qu'ils doivent porter avec eux aussi.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Cette nouvelle enquête d'envergure montre les pratiques cruelles et illégales de 8 élevages de cochons fournissant les supermarchés Leclerc. Dans ces élevages des Côtes d'Armor en Bretagne, on enferme les truies dans des cages, on coupe à vif la queue des porcelets, on engraisse des cochons les uns sur les autres, on laisse sans soin des animaux malades ou blessés, le tout dans des bâtiments fermés. Leclerc pourrait agir en faisant respecter la réglementation dans les élevages qui fournissent ses magasins et en refusant l'enfermement en cage des truies. Au lieu de cela, Leclerc ne réagit pas et donc cautionne ses pratiques.
Brigitte Gauthier, une vidéo de votre association L214, vous qui êtes en train de demander justement à Leclerc de renoncer aux conditions d'élevage les pires qu'on puisse trouver pour les cochons. Ça fait partie des campagnes que vous menez en ce moment.
Oui, exactement. Oui. Et c'est très important en fait que les supermarchés soient mis face à leurs responsabilités, puisque c'est très bien expliqué d'ailleurs par Ulysse Thévenon dans Le Sens du Bétail, cette espèce de... un entonnoir où vous avez d'un côté les coopératives agricoles, les supermarchés qui sont 7-8, très très peu, et puis derrière les consommateurs. Donc c'est eux qui vraiment font la pluie et le beau temps sur ce qui est proposé.
Quand vous interpellez Leclerc, est-ce que on vous appelle directement ou pas? Est-ce que Monsieur Leclerc, il vous passe un coup de fil en disant discutons, parlons ensemble?
Alors, moi, je ne l'ai jamais eu, mais quand on commence une campagne comme celle-là, qui est une campagne publique, on a déjà, avant, au moins sollicité des rendez-vous pour pouvoir expliquer la situation et demander des actions. Quand on voit les campagnes, ça fait déjà plus d'un an, en fait, qu'on a commencé
des échanges. Mais ces rendez-vous, ils sont honorés ou pas?
Oui, avec la plupart des secteurs de la distribution.
D'accord,
des
entreprises. Donc vous les mettez au courant de ce que vous allez faire?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Oui.
Et ça laisse présager quoi, de nombreuses discussions, ou ça ferme complètement le débat en disant vous êtes gentil, mais
ça dépend.
Vous allez nous faire une com' épouvantable, évidemment, on ne va plus se parler, quoi.
Non, ça dépend. Moi, je me rappelle de Thierry Desouches, de la coopérative U, j'ai vu qu'il était parti maintenant, mais qui disait, au départ, nous, on les regardait un petit peu de loin, et puis finalement, ça nous a fait avancer sur un certain nombre de sujets. Donc oui, on peut être vu un peu comme le caillou dans la chaussure.
Ouais.
Après, on est un toujours dans la bienveillance, mais quand même ferme sur nos demandes, de façon à faire évoluer les choses. Et puis, ce qu'on demande, c'est pas la lune, hein. Là, pour Leclerc, on demande le respect de la réglementation et le fait d'arrêter de mettre les truies dans ces cages. Je ne sais pas si vous avez l'image en tête de ces truies qui sont entourées par les barreaux avec les petits qui têtent à travers. Enfin, c'est ça aujourd'hui l'élevage.
Les truies peuvent écraser aussi à l'occasion.
Et qu'elles peuvent écraser à l'occasion, elles peuvent juste se lever, se coucher. Enfin, la maternité, c'est une horreur, quoi.
Brigitte Gauthier, quand Émeric Caron écrit dans son livre, donc tous les viandales, les mangeurs de viande ne sont pas des salauds, mais tous sont des assassins. Dire à un boucher ou à un consommateur qu'il est un assassin, est-ce que c'est une bonne façon, franchement, d'aborder le problème pour changer les regards sur la question ?
Émeric Caron, comme un petit peu tout le monde, utilise ses propres mots, son propre ressenti pour dire des choses qui, effectivement, sont dites depuis qu'on tue les animaux pour manger de la viande. Au départ, on était plutôt charognards, hein, ça c'est Florence Burga qui le documente. Mais à partir du moment où on a l'acte de tuer et où on n'est plus dans la survie, il y a des questions éthiques qui se posent, des questions morales autour du fait de tuer les animaux. Moi, j'ai mangé de la viande jusque mes 20 ans. Émeric Caron, je crois que c'est son cas aussi.
Mais quand vous dites faut embarquer la société sur ces questions-là, démarrer en parlant d'assassin, enfin, c'est un petit peu difficile quand même.
Oui. Mais en même temps, il y a des personnes qui sont plus sensibles au fait d'être un petit peu secouée, choquée par des propos, puis qui, justement, ça fait son chemin.
Donc, c'est pas contre-productif pour vous ?
Moi, je ne saurais pas juger ce qui est productif et ce qui est contre-productif. Il y a des modes d'expression que j'utiliserai pas, il y a des modes d'action que j'utiliserai pas.
Lesquels, par exemple ? Parce qu'il y a de nombreuses voix qui s'élèvent pour critiquer justement des initiatives qui désignent à la vindicte populaire les métiers, par exemple, des filières d'éleveurs.
Par exemple, nous, c'est pas le cas du tout, quoi. Enfin, ce sera pas le cas, ce sera plutôt d'essayer de comprendre. Et puis, moi, je vois les ouvriers d'abattoir. On a croisé assez tôt dans l'histoire de L214 des ouvriers d'abattoir. En particulier, je peux parler de Mauricio Garcia Pereira qui a choisi de témoigner à visage découvert. L'histoire de ces personnes parle d'elle-même. Anne-Sophie Reinhardt aussi, qui les interviewe dans son documentaire Les damnés des abattoirs, par exemple, permet de comprendre un certain nombre de choses. Comment ils se mettent à distance des animaux, comment ils essayent de certains disent je laisse mon cerveau dans mon casier quand j'arrive à l'abattoir, d'autres disent j'imagine que c'est des cartons. Enfin, tous les mécanismes psychologiques qui se mettent en place pour pouvoir finalement supporter l'insupportable. Donc non, l'idée c'est quand même de voir en fait le système. Qu'est-ce que aujourd'hui notre façon de consommer fait faire à des personnes qui finalement sont aussi enfermées dans un environnement. Pourquoi on se retrouve ouvrier d'abattoir ? Enfin, c'est dans la cour de récréation de la maternelle, il y a personne qui dit je veux être ouvrier d'abattoir plus tard, quoi.
Certains militants vont jusqu'à incendier des bâtiments dans des abattoirs, comme ça s'est passé dans l'Ain en 2018. Certains vont vandaliser des étals de bouchers. Est-ce qu'on peut parler d'un véganisme radical, Brigitte Gauthier ?
On peut parler d'action radicale. Et je pense que les incendies sur l'abattoir de l'Ain, c'est absolument pas prouvé que ce sont des défenseurs des animaux qui ont fait ça, ce qui me paraîtrait...
Des écologistes, en tout
complètement,
cas.
Même pas. Ça me paraîtrait complètement fou d'incendier un endroit dans lequel peuvent se trouver des animaux.
C'était des bâtiments, a priori.
C'est des bâtiments dans lesquels... quand vous mettez le feu quelque part, il y a forcément des animaux qui sont là, qui sont plus ou moins grands, que vous savez qui sont là. Donc,
Parlons de la vandalisation
de
vandalisation de boucher,
ou des cailloux dans les... Ouais. Dans les pour le coup, c'est pas des actions que je trouve pertinentes. Je pense qu'effectivement, ça peut couper une partie du dialogue. Après, j'entends aussi la frustration, peut-être l'immense colère aussi que peuvent avoir un certain nombre de personnes qui sont... consciente de ce que vivent les animaux et où leur colère, du coup, peut sortir de façon qui, de mon point de vue, sont difficiles à recevoir par la société et sont difficiles à recevoir par les personnes qui prennent un caillou dans leur
Mais vous les excusez d'une certaine manière, en tout cas vous les comprenez ?
Bah, je peux entendre, ça ne veut pas dire que j'excuse, on est chacun responsable de nos actes par ailleurs.
Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous n'arrivez pas à discuter ? Je pense par exemple à la Confédération Paysanne.
Eux qui n'arrivent pas à discuter avec nous, mais nous,
oui. on pourrait imaginer qu'il y ait quand même un dialogue sur ces questions majeures.
Ce serait génial.
Pourquoi justement vous n'arrivez pas à discuter avec ce syndicat ? Ou pourquoi ce syndicat ne veut pas discuter avec vous ?
Alors historiquement, on a, avec la Confédération Paysanne, un passé militant très chouette. C'est la lutte contre l'élevage des mille vaches dans la Somme, où on était côte à côte et où justement on a réussi à faire capoter cet élevage. Et puis ensuite, effectivement, le dialogue a été rompu de leur fait et n'a pas repris depuis.
Mais pourquoi ?
Ce qui est bien malheureux.
Pourquoi ?
Parce que justement, nous, on remet en question l'élevage en lui-même. Et j'ai l'impression que ce désaccord empêche de se parler, alors que... Oui, on ne va pas être d'accord sur tout, mais c'est bien normal. Et par contre, je pense qu'on a tout un terrain sur lequel on peut construire sur justement les modèles d'élevage intensif et industriel. Je pense qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut faire avancer la lutte ensemble, en bonne intelligence, tout en sachant qu'effectivement, on va avoir des différences, des désaccords, et ce n'est pas grave.
On va écouter l'extrait de ce reportage de France 3 Grand Est au sujet d'une cantine végétarienne.
Dans cette école, on mange végétarien tous les jours depuis la rentrée scolaire. Dans les assiettes de ses élèves ce midi, des pois chiches et une soupe de brocolis et pommes de terre.
Quand il n'y avait pas de menu végétarien, c'était pas si bon.
Un menu végétarien unique dans toutes les crèches et les écoles primaires, c'est ce qu'a décidé la mairie de Fribourg en Allemagne. Un choix assumé.
Chez nous, la société allemande de nutrition dit qu'il n'est pas nécessaire, en principe, de consommer autant de viande que ce que nous consommons aujourd'hui.
À Fribourg, les parents doivent même payer 50 centimes de plus, destinés à augmenter la part de produits bio et réduire le déficit de la municipalité.
Brigitte Gauthier, quand vous entendez ça, ce qui se passe à Fribourg, donner de la cantine, de l'alimentation végétarienne toute la semaine aux enfants, ça vous fait rêver, vous ?
Oui, moi ça me semble une très bonne orientation. Aujourd'hui, en France, en tout cas, on est en situation de surconsommation de produits d'origine animale, y compris pour la santé des plus jeunes et des plus âgés aussi, de tout le monde. On est vraiment en situation de surconsommation et on ne sait pas comment consommer autrement. Donc là, c'est tout à fait pédagogique. Puis là, ils mettent en avant les pois chiches. En France, on a beaucoup aussi de légumineuses qui sont passées de mode, les mojettes du Poitou, les lentilles du Puy-en-Velay. Donc on a beaucoup à redécouvrir sur les légumineuses. En France, on est parmi les plus petits consommateurs de légumineuses au monde, alors que les légumineuses, c'est des protéines de super qualité et tout ça. Donc on a besoin de se réapproprier notre assiette. Aujourd'hui, vraiment, il y a une emprise de la viande sur nos assiettes.
Ouais. Mais vous imaginez déjà le débat qu'il y a eu autour de la journée dans les cantines de nourriture végétarienne. Là, une semaine entière, mais c'est l'émeute en France, non ?
Alors, c'est pas l'émeute en France, c'est effectivement le risque d'avoir des mouvements instrumentalisée sur une espèce de clash entre les éleveurs et les véganes qui est montée de toutes pièces, en fait. Parce que les gens sont prêts à réduire leur consommation de viande. Et par qui ? Et bien par l'industrie de la viande qui a tout intérêt à rester. Nous sommes des débouchés de l'industrie de la viande, tous autant que nous sommes.
Sinon, vous pensez qu'il n'y aurait pas de débat sociétal là-dessus ?
Il pourrait y avoir un débat, mais aujourd'hui, il est complètement étouffé. Oui, il y aurait une acceptation. Évidemment qu'il y aurait une acceptation, on le voit dans les sondages qui ont été faits par le RAC, où les gens ont commencé à réduire leur consommation de viande. Et c'est d'ailleurs très intéressant, les gens disent avoir réduit leur consommation de viande, et puis on voit les statistiques qui disent que non, en fait, on n'a pas réduit. L'industrie de la viande est tellement maligne qu'elle arrive à s'adapter. Effectivement, on ne mange plus de grosses pièces de bœuf, mais on va manger des nuggets, des cordons bleus et tout ça.
Donc ça dit quoi de votre action depuis 2008
hein ? Vous n'avez pas fait échec.
Oui, quand même.
Non, mais complètement, on est en échec. Et c'est pour ça qu'on va commencer une campagne qui dit vraiment « réduisons le nombre d'animaux tués ».
Non,
ça nous décourage pas parce que justement on se dit on a pris le problème pas du bon côté et peut-être on peut faire autrement et puis ça nous décourage pas parce qu'on a bien vu, on a réussi à faire reculer sur des petites choses qui peut-être quand on a commencé, on n'imaginait pas que ça puisse être possible de faire arrêter le broyage des poussins, de réduire la part de poules élevées en cage de batterie, de faire reculer les pires conditions d'élevage pour les poulets, on n'imaginait pas ça du tout et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc encore plein d'espoir. Et puis, on a de l'espoir aussi parce qu'on a aujourd'hui plus de 50 000 membres de l'association L214. Et c'est juste gens qui y croient.
Et vous allez les chercher de plus en plus jeunes, vos membres. Hein, parce qu'il y a, oui. Il y a un journal pour les enfants de quel âge, d'ailleurs?
C'est les 10-14.
10-14 ans.
C'est les 10-14 ans. C'est la revue. Mon journal animal. Ouais. Et elle est géniale. Alors, je peux le dire d'autant plus facilement. Et je peux dire d'autant plus facilement que ce que fait L214, c'est absolument fabuleux. Parce qu'on a une équipe salariée et bénévole qui est incroyable. Et donc, mon journal est animal fait partie de ça pour expliquer avec des mots, oui, alors parce des mots simples, c'est ludique. Il n'y a pas d'image d'abattoir.
Oui, mais c'est ça. Pour les parents qui s'inquiètent,
non,
on ne voit pas
tout.
Des cochons s'en faire trucider dans un abattoir.
Là, par exemple, le grand dossier, c'est les animaux de la nuit. Donc, on va plutôt être dans les milieux sauvages. Ici, les animaux géants sur les baleines, les éléphants. On a les villes qui sont engagées pour les animaux.
Donc, c'est revue papier. Hein.
Revue papier est disponible aussi de façon électronique sur education.l214.
Justement, vous avez deux enfants, hein, Brigitte Gauthier. Ils ont
des grands.
Ils ont quel âge?
Ils ont 26 et 21.
Ah oui, c'est des grands, effectivement.
Oui.
Ils sont véganes aussi ou pas?
Oui, ils ne mangent pas les animaux parce que eux, l'extrait que vous avez lu du départ, c'est exactement ce qu'ils peuvent ressentir par rapport à la viande. Ils n'en ont jamais mangé.
Pétrarque. Hein.
Et plus tard, quoi. Et ils voient ça, comme un morceau de cadavre. Vraiment, ils n'ont pas la culture de la viande et ils voient ça comme un morceau de cadavre. Donc, ouais. Ils ne portent pas de cadavre à leur bouche.
Mais
simplement.
Ça a été influencé très nettement par leurs parents.
Ah bah oui, c'est obligé. Hein. Oui. Leur milieu culturel familial fait qu'on ne considère pas les animaux comme de la nourriture. Et ça, ça les intéresse. Mais ça veut dire que le changement peut se faire aussi très rapidement.
Discuté dans votre famille? Est-ce que les grands-parents, par exemple, ont discuté?
Ouh là là, oui.
Ouais, en disant, mais vous êtes
fous. Les arrière-grands-parents.
Les enfants, il faut leur laisser manger de la
exactement.
Viande. C'était le débat.
Bien sûr, ouais. Oui, complètement. Mais en les voyant grandir de façon harmonieuse et en se disant, bah, en fait, oui, non, il n'y avait pas de sujet.
Ouais. Donc maintenant, les repas de famille, à Noël, ça se passe bien quand même.
Mais ça s'est toujours bien passé, ouais.
Ouais. Merci beaucoup Brigitte Gauthier, en tout cas, d'avoir été l'invitée aujourd'hui au Carré. Pour ceux qui souhaitent soutenir L214, on sait où vous trouvez sur Internet, c'est très facile. Il y a tout le travail que vous avez fait depuis 2008. Merci beaucoup à vous. Et on termine comme tous les vendredis avec vos messages. C'est l'heure du répondeur.
Merci.
Oui, bonjour, Vincent de la Champagne, conseiller viticole. Je vous remercie d'avoir insisté sur l'intérêt de la matière organique dans les sols pour retenir de l'eau, ce que les viticulteurs champenois essayent de faire. Je considère que la matière organique en vigne, c'est comme la crème fraîche en cuisine, on n'en met jamais trop. Je voulais quand même alerter sur un point, c'est que le cahier des charges HVE a de valeur environnementale, que vous décriez souvent, mais qui n'est pas si mal que ça quand on n'est pas bio, empêche les apports de masse de matière organique et la séquestration du carbone, car les vignerons qui veulent apporter effectivement des doses importantes de matière organique perdent la certification haute valeur environnementale. C'est pour alerter un petit peu le ministère de l'Agriculture sur un besoin assez urgent de modifier le cahier des charges sur ce point. Merci.
Bonjour, ici c'est Francine. Dans le Calvados, exactement du village d'Étreuland, où il y a un méthaniseur. Et je vous demande ce que l'on doit penser des milliers d'hectares maintenant de cultures qui reçoivent les digestats de ces méthaniseurs, qui sont riches en ammoniac et totalement dépourvus de matière organique, puisque le carbone est parti dans le gaz. Merci.
Vincent, j'appelle de Pau. Merci beaucoup pour vos émissions. J'écoute celle sur l'hydrologie régénérative. Et malheureusement, dans les milieux semi-désertiques, comme au Sahel, en Afrique, vous ne parlez pas des cultures en demi-lune pour reforester, faire du petit maraîchage et cultiver du mil. Et en fait, il s'agit de mettre en œuvre le fameux ralentir, freiner l'écoulement des eaux météoriques pour éviter donc que l'eau parte tout de suite dans les corries, dans les ouèdes, et donc garder l'eau un petit moment pour planter des arbres et puis faire un peu d'agriculture. Donc c'est creuser des demi-cercles de 4 mètres de diamètre, et on appelle ça des demi-lunes, dans la région de Tawa au Niger. Ça a été très pratiqué, et puis aussi en Israël, dans le désert du Negev. Voilà, merci, au revoir.
Bonjour, la Terre au Carré, c'est Nadège de Gap. Le collectif citoyen JOP 2030 continue ses actions. Le vendredi 16 mai 2025, au départ de Saint-Genis-Laval, au sud-ouest de Lyon, nous rallierons à vélo et dans la bonne humeur le COJOP situé à Décines, à l'est de Lyon, à l'issue d'un tracé dans Lyon qui nous permettra de rallier également l'hôtel de région Aura. Afin de remettre au président de région Aura, M. Pankouk, et au président du COJOP, M. Gros-Piron, notre petite motion qui est sur Green Voice, qui s'appelle JOP 2030, demande de suspension du contrat olympique. En effet, nous demandons aux différents porteurs du projet de se conformer au droit français qui n'est pas respecté. Ce sera l'occasion pour notre collectif de faire connaître aux personnes que nous croiserons notre mouvement et d'échanger sur les conséquences non négligeables d'un point de vue environnemental, social et financier que revêt l'organisation de Jeux olympiques d'hiver en montagne, milieu d'ores et déjà fragilisé et terriblement impacté par le réchauffement climatique. Toutes les infos sont sur notre site, collectifcitoyensjop2030.fr. À bientôt, au revoir.
Et merci pour vos messages. N'hésitez pas bien sûr à nous appeler pendant le week-end. Si vous êtes très inspiré par la question du véganisme, par exemple, eh bien n'hésitez pas à réagir à l'émission avec Brigitte Gauthier au 01 56 40 45 45. Merci d'ailleurs à Nama Sardier qui a préparé ce dossier, Valérie Ayestara qui réalisait cette émission et Philippe Duclos à la technique.